Ce qui était difficile à gérer, c'est effectivement les bases de vie qui sont très très espacées, quoi. Ça va d'entre la plus courte distance, c'est 55 km, mais 3000 des plus, donc tu mets quand même un certain temps. Et bah, du CP1 au CP2, il y a quand même 100 km, quoi. 100 km, là j'ai mis 20 heures, quoi. Et j'étais parmi les plus rapides, donc faut imaginer ceux qui sont un peu plus lents, et eux, ils sont carrément 30 heures dans la nature, quoi. Et sur la fin, t'es vraiment complètement perpète dans les marais ou dans un massif montagneux. Donc là, t'as rien, rien du tout, quoi. Pendant 70 km.
Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous deux fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai l'immense plaisir de re-recevoir dans ce nouvel épisode Claire Banouart, l'une des figures majeures de l'ultra-trail français qui, course après course, marque de son empreinte la discipline, elle qui a couru son premier trail en août 2017 seulement. Claire est un véritable phénomène dont on ne mesure pas pleinement, je trouve, la portée des exploits en ultra-trail, elle qui a participé à 22 ultras en 2022 et qui a décroché une première médaille par équipe avec un titre de vice-championne d'Europe de 24 heures avec l'équipe de France. Préparez vos gants, vos bonnets et vos écouteurs en Gore-Tex, Claire va nous embarquer aujourd'hui pour notre plus grand bonheur sur les sentiers de la Spine Race, une course de plus de 430 km entre l'Angleterre et l'Écosse à la redoutable exigence. Un défi absolument colossal de plus, auquel elle s'est frottée avec une immense détermination il y a quelques jours seulement. Mais je ne vous en dis pas plus, Claire va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, Spine Girl. Bonjour Claire, je suis ravi de te recevoir dans ce 104e épisode de Course Épique. Comment ça va ?
Bah écoute, ça va très bien.
Est-ce que tu as pris un café pour démarrer cette émission comme il se doit ?
J'en ai pris plein, c'est bon, je suis parée là. Je veux pouvoir tenir jusqu'à la fin, je crois.
Claire, on a déjà eu le plaisir d'échanger lors de l'épisode 30 de Course Épique, c'était en mars 2021, autant dire il y a une éternité. Course Épique était alors un bébé podcast encore, et puis toi encore une ultra-traileuse dont j'avais dit à l'époque qu'on allait beaucoup entendre parler de toi à l'avenir. Chacun pourra mesurer le chemin parcouru et les milliers de kilomètres que tu as parcouru aussi depuis. Pour les auditeurs qui voudraient donc en savoir plus sur toi, je les invite à se plonger dans cet épisode 30, mais pas tout de suite. D'abord, on a plein de choses à se raconter, donc dès que vous avez fini cet épisode, pour en savoir encore plus sur Claire, et notamment sa Swiss Peaks 2020, je vous invite à écouter l'épisode 30 du podcast. Claire, c'est l'heure de l'instant traditionnel éphéméride d'ouverture de podcast, ça devient un petit classique. Le jour s'est levé aujourd'hui à 7h30 et se couchera, si tout va bien, à 16h36. Tout ça, ça fait 9h36 de journée, c'est sacrément plus long que ce que tu as connu sur la Spine, ça non ? Ça fait rêver ?
Une heure de plus, ouais, je crois.
Ça fait la différence sur 4 jours de course.
Eh ouais, chaque heure de jour est précieuse, c'est sûr.
Claire, je vais te demander de te présenter, comme le veut le traditionnellement le début de l'épisode. Interdiction de parler de sport ou de course à pied. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous raconter qui n'est pas en lien direct avec ta pratique sportive ? Qu'est-ce que tu es prête à dévoiler de toi que les auditeurs seraient ravis de connaître ?
Ouais, d'accord. Moi, je suis Claire Banouart, j'ai 33 ans. J'habite à Village Neuf, qui est un petit village près de Bâle, en Suisse, où je travaille. Je suis actuaire dans une compagnie d'assurance. Je calcule des primes, des contrats, je m'amuse avec des bases de données, je fais même des web apps. Enfin, j'ai un métier très, 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 très intéressant et surtout, je ne fais pas grand-chose et je suis payée beaucoup, je travaille en Suisse. Et je suis mariée avec une personne formidable et je n'ai pas d'enfant. Et c'est vrai qu'à part la course à pied, je ne fais pas grand-chose d'autre à part travailler. Quand je travaille pas ou que je dors pas, j'aime et que je fais pas de sport, mais j'ai pas le droit de parler sport. J'aime aussi lire, écouter de la musique. J'aime beaucoup écrire aussi. C'est vrai que si j'avais plus de temps, j'aimerais bien écrire un livre sur le sport, dont je n'ai pas le droit de parler. Globalement, c'est une vie bien remplie.
Je vois ça, effectivement. Si on ajoute à tout ça à peu près un ultra une semaine sur deux en moyenne, si on lit sur une année, ça vous fait une année bien remplie.
Ouais.
Claire, tu as très jeune développé un intérêt pour l'escrime que tu as découvert à la maternelle sous une forme d'initiation. Qu'est-ce qui a suscité ton intérêt à l'époque pour ce sport? Qu'est-ce qui t'a donné envie?
J'aimais bien le côté affronter quelqu'un. C'est vrai que l'escrime, c'est quand même un sport que tu peux pas pratiquer tout seul. Donc, tu es forcément obligé d'aller en club et de voir des gens et de faire beaucoup de rencontres, du coup. Et puis, c'est un sport qui allie la technique, le physique et le mental. Bah, un peu comme la course à pied, à vrai dire. Donc, j'aimais bien. Et puis, c'était aussi l'époque où j'étais jeune et où je regardais des films de cap et d'épée. Donc, c'est sûr que c'est toujours sympa de
Jean
se
Marais,
dire que...
tu en as bouffé du Jean Marais?
Exactement. Donc, c'est toujours sympa de se dire que moi aussi, je peux le faire. Ouais, moi aussi, j'ai une épée et moi aussi, je peux éventrer des gens. Enfin, sauf que dans la vraie vie, on n'éventre pas des gens. Mais...
On essaie, on peut, mais c'est risqué.
C'est ça. Ça se passe mal après, en principe. Mais oui, c'était un sport hyper, hyper rigolo, on va dire. Et puis, ça fait 10 ans que j'ai arrêté, mais j'avoue que l'idée de reprendre un fleuret et de retaper sur des gens me tente
T'as
bien quand
effleuré
même.
l'esprit?
Oui.
Et il y a cette idée de compétition pour le coup qui est peut-être. Ce duel, cette opposition, c'est un truc que tu retrouves dans le trail ou pour le coup, tu n'es pas du tout dans cette démarche-là, dans le trail où le sujet, c'est principalement toi face à toi-même?
Bah, en fait, j'ai fait de l'escrime pendant. Jusqu'à mes 20, 23 ans, on va dire. Donc, j'ai fait une quinzaine d'années d'escrime de compétition. Et après, j'ai totalement arrêté et je me suis mis à la course à pied, loisirs, tranquille. Je courais pour moi-même et tout. Et c'est vrai que j'ai recommencé le trail en compétition il y a 4 ans et ça m'a rappelé de bons souvenirs de s'entraîner, d'avoir un plan d'entraînement, d'avoir des compétitions chaque week-end. Parce qu'à l'escrime aussi, j'avais des compétitions toutes les 2 semaines à peu près.
Ça, c'était important, les compétitions? C'était central dans ta démarche? S'il n'y avait pas eu cette partie-là, tu aurais mis moins d'engagement, tu penses?
L'escrime, oui, parce que finalement, le but du jeu, c'est quand même d'être le meilleur, on va dire. Et on a beau s'entraîner en club, la seule manière pour progresser, c'est de rencontrer des gens qui sont plus forts que soi. Donc, c'est vrai que les compétitions, ça me permettait de progresser. Et c'est vrai qu'entre elles, là, c'est la même chose. À l'entraînement, j'aime pas trop me rentrer dedans, j'aime pas trop aller vite, j'aime pas trop me faire mal. Et c'est vrai que quand j'ai un dossard, tout de suite, j'ai envie d'aller vite, j'ai envie de donner un peu le meilleur de moi-même. Et c'est aussi pour ça que je fais autant de compétitions, autant de courses de trail dans l'année. C'est aussi parce que à l'entraînement, j'aime pas me faire mal. Et je sais que si je m'inscris sur un trail, je vais avoir envie d'être dans les premières positions et donc de faire un vrai entraînement, de vraiment mettre un peu d'intensité.
Tu as une carrière qui a été marquée par des performances significatives en escrime, puisque tu as atteint du très haut niveau international notamment dans la catégorie junior. Pour autant, tu n'as jamais décidé de renoncer à tes études, ce qui t'a peut-être, probablement, certainement joué des tours et pénalisé auprès de la fédération, en tout cas dans le développement de ta carrière de fleurettiste. Enfin, je ne veux pas t'enlever les mots de la bouche, mais j'ai cru comprendre que ça avait pu, en tout cas, avoir un impact. Est-ce que c'était difficile à encaisser cette idée-là à l'époque, ou est-ce que tu es certaine de faire le bon choix? Je ne doute pas qu'aujourd'hui, tu te dises que tu es bien fait de mener de front et d'avoir fait le choix de ne pas renoncer en tout cas et de pas rentrer dans un pôle sport pour pouvoir te consacrer à côté à tes études et à une projection de carrière. À ce moment-là, est-ce que ça a été plus difficile à avaler comme pilule au moment où tu n'as pas été retenu en tout cas dans le pôle que tu ciblais à l'époque?
Ah oui, forcément. Après, on est jeune. Quand on est jeune, on se focalise pas trop sur l'avenir. C'est qu'on voit plutôt, on vit plutôt dans le présent. Donc c'est vrai que sur le moment... Ouais, j'avais pas trop aimé, pas trop apprécié, et c'est vrai que j'avais plutôt tendance à l'époque à vouloir privilégier le sport à mes études. Et c'est vrai que heureusement que mes parents ont été là pour un peu me remettre dans le droit chemin, on va dire, et me dire d'aller continuer mes études d'abord et de pas tout sacrifier pour l'escrime. Et c'est vrai que maintenant, avec le recul de 15 années supplémentaires, je les remercie d'avoir fait ça, parce qu'effectivement, malheureusement, en France, il y a pas trop la place. Pour être sportif de haut niveau sur des sports qui sont très peu reconnus, à part le foot et le tennis, il n'y a pas vraiment la place. Et j'ai le même dilemme aujourd'hui. C'est vrai que j'adore, je suis passionnée de trail, j'adore ce que je fais en trail, j'adore la course à pied. Et j'avoue que si j'avais la possibilité de vivre de ça, j'en serais ravie. Et j'attendrais qu'une seule chose, c'est d'avoir la possibilité de pouvoir le faire. Mais... Je suis aussi bien contente d'avoir un boulot à côté qui me permet justement de payer mon matériel, mes dossards, mes courses et de pouvoir faire un peu ce que je veux aussi. Et je me rends compte que si j'avais tout sacrifié à l'époque pour faire du sport, déjà, j'aurais pas la possibilité de faire ce que je veux en course à pied actuellement. Et puis, il suffit de se blesser ou quoi que ce soit pour que tout soit fini, sans compter en plus qu'on ne peut pas non plus gagner des millions, voire même des milliers d'euros dans notre sport, que ce soit l'escrime ou la course à pied, et qu'on est forcément obligé d'avoir un travail à côté, malheureusement.
Malheureusement, donc c'est une décision quand même que tu déplores en tout cas. Tu préfères, idéalement, t'aurais aimé que le scénario s'écrive autrement.
Ah bah oui, idéalement j'aurais bien aimé vivre de l'escrime ou de la course à pied, c'est sûr, hein. Mais d'un autre côté, c'est bien aussi qu'il n'y ait pas tant d'argent que ça en jeu dans nos sports, parce qu'on peut quand même, en tant qu'amateur, se faire plaisir, et c'est ça qui est le plus important aussi.
Si je reviens un peu dans le temps, la course à pied, elle est arrivée progressivement dans ta vie, même si elle était déjà présente. Je crois que tu allais courir un peu le week-end avec ton papa notamment. Le vrai intérêt de la discipline ou la façon dont petit à petit elle a commencé à prendre de la place dans ton quotidien, ça a été surtout pour des raisons de praticité, finalement, des raisons un peu logistiques qui faisaient que c'était compatible avec tes débuts dans la vie professionnelle. C'est ça qui a permis de laisser un peu de place à la course à pied?
Oui, puis bah aussi c'était mon moyen de déplacement. J'avoue que ça a toujours, j'ai jamais eu de voiture et j'ai toujours tout fait à pied et c'est plus un mode de vie qu'autre chose.
Oui, on parle pas de sport ou de pratique pour toi, c'est
Oui,
intégré pleinement à ta façon de vivre et d'être.
exactement, voilà.
Est-ce que tu as su très vite que tu serais attiré par des efforts longs et que c'est peut-être là aussi où tu avais des capacités, des prédispositions que tu pressentais, ou est-ce que ça s'est fait étape par étape, kilomètre après kilomètre, où tu as pu constater, notamment après ton UT4M, qui a, je pense, été assez fondateur, ta première course, si je dis pas de bêtises, ton premier trail, est-ce que c'est tout ça qui a petit à petit contribué à te faire prendre conscience de ça, ou est-ce que très vite tu as senti qu'il y avait un potentiel lapin du Duracell en toi, capable de courir très très longtemps?
Bah, j'ai toujours su que je pouvais courir assez longtemps, mais c'est vrai que j'ai mis un peu de temps à franchir le pas et qu'il m'a fallu passer par beaucoup d'étapes. Enfin, globalement, j'y suis allée progressivement. J'ai commencé par l'UT4M, qui était 4 fois un marathon, puis après un 70 km, puis un 90, puis un 110. Puis après, j'ai passé le pas sur un 100 miles, quoi.
Je précise quand même que l'UT4M, tu as fini cinquième, je crois, sur ta première course, ce
C'est
qui
ça.
est l'annonciateur de belles performances.
C'est ça. Mais c'est vrai qu'au départ, j'avais un petit peu peur de monter dans les distances, parce que même si j'étais habituée et que je faisais des gros volumes, de course à pied et que je courais quasiment tous les jours, il y a quand même le je passe une première nuit dehors qui rebute un peu, surtout quand on n'a pas l'habitude. Et puis même après, quand je suis montée sur des distances de 100 miles, il m'a fallu un peu de temps pour monter encore au-delà. Donc aux courses multijours comme la Swiss Peaks ou même tout simplement les backyards où on peut vite dépasser les 200, 250 voire 300 km. Ça, j'ai quand même mis un peu de temps, enfin un peu de temps. C'est vrai que finalement en 4 ans je l'ai fait, mais c'était pas quelque chose que j'envisageais tout de suite faire la Swiss Peaks ou le Thor. C'était vraiment des choses que j'imaginais plutôt quand j'ai commencé, dans 5, peut-être 10 ans et pas 4 ans quoi, voire même 3 à vrai dire. Parce que ça fait quand même peur et parce qu'il faut quand même passer plusieurs nuits dehors. Et puis c'est un peu l'inconnu aussi, mais à un moment, faut se lancer, à un moment.
Est-ce que ça t'appelle aussi, justement, ces territoires un peu inconnus et ces expériences où tu as le sentiment de sortir largement de ta zone de confort? Là, tu parles de ta crainte, mais c'est aussi des choses que tu as envie d'aller chercher, j'imagine, vu les défis que tu te lances aujourd'hui, qui sont à chaque fois, notamment l'Espagne dont on va parler, tu repousses quand même des limites à chaque fois. Donc, c'est une espèce d'ambivalence entre une attirance et une crainte, malgré tout.
Ouais, j'avoue que l'Espagne, c'était complètement hors de ma zone de confort. Je pense qu'au bout d'un moment, on veut pas forcément plus, mais on veut quelque chose de différent ou qu'on voit ça comme un défi, en fait, qui nous perturbe. Parce que c'est vrai que ça, finalement, s'aligner au départ d'une course en se disant, bon, je vais la finir, la question, enfin, si je me blesse pas, je vais la finir, la question, c'est de savoir est-ce que je vais la finir bien ou pas. À un moment, on a aussi besoin de ce petit défi, de ce petit challenge en plus de se dire, ah, je suis pas sûre de finir quand même. Ça va être compliqué, ça va être difficile. On va voir comment ça va se passer, quoi. Et c'est vrai que quand on commence à, après, je dis pas que quand j'ai fait le Thor ou la Swiss Peak, j'avais pas peur et tout, mais quand on commence à en faire un, deux, trois, quatre, c'est la cinquième ou sixième course de plus de 300 km qu'on fait, on commence quand même à se dire, bon, je vais réussir à gérer, même si ça se passe mal, je sais comment je vais faire. Et après, bah voilà, quand on commence à se trouver des défis un peu fous comme la Spine, où là on se dit, mon Dieu, j'ai jamais fait ça, je ne sais pas si je vais y arriver, je sais même pas si je vais tenir 20 km, bah ouais, forcément, il y a toujours ce petit piment en plus, cette petite sensation de peur qui finalement nous manque un peu, que j'avais un peu à mes débuts quand j'ai fait mes premiers 100 miles. Moi, j'ai fait mon premier 100 miles, j'étais terrorisée. J'ai fait mon premier 200 miles, la Swiss Peak, j'étais terrorisée aussi. Et c'est vrai qu'à force d'en faire, on perd un peu, je dis pas que ça devient une habitude, c'est jamais une habitude ce genre de course, mais on perd un peu ce petit goût de, ah, est-ce que je vais réussir à finir? Comment ça va se passer? Parce que finalement, le corps finit quand même par s'habituer, l'esprit quand même finit par s'habituer. Avec l'expérience, on commence à savoir comment gérer ce genre de course. Et c'est vrai que c'est bien à ce moment-là de passer à des choses complètement inattendues, inhabituelles, folles.
Est-ce qu'il y a quelque chose, enfin des choses qui restent encore inconfortables en dépit de l'expérience que tu as accumulée, à titre d'exemple, la gestion de la nuit ou l'alimentation, des passages très techniques? Est-ce qu'il y a quand même des choses qui, toi, aujourd'hui, une forme d'inconfort au-delà de l'expérience que tu as pu accumuler qui fait que tu appréhendes tout avec beaucoup plus de confiance?
Bah oui, forcément, courir la nuit, c'est jamais évident. Là, sur la Spagne, j'ai eu énormément de chance que la météo soit sèche, parce que je sais que je ne supporte pas courir sous la pluie. Donc je sais qu'il y a encore des choses, même les passages très très techniques. Bon, ok, je commence à avoir un petit peu plus d'habitude. J'ai fait la Diag, le Verbier, l'Échappée Belle, etc. J'ai même le Thor, c'était assez technique. Mais c'est vrai que c'est pas des choses où je suis hyper confortable d'avoir ça tout le temps, sans arrêt. Donc je sais que sur une course, je peux potentiellement avoir des passages comme ça qui seront très très difficiles. Et selon les conditions météo, une course peut aussi devenir tout à fait difficile aussi. Donc ouais, il y a des tas de choses que j'ai identifiées qui me seraient inconfortables qui peuvent, si jamais je refais la Spine par exemple, je sais que je peux tout à fait avoir de la pluie pendant 5 jours et un terrain hyper difficile qui n'est pas du tout ce que j'apprécie. Et je sais que si je refais la Spine, ça pourrait être tout à fait différent et je pourrais tout à fait avoir une expérience totalement différente. Parce que finalement, là, l'expérience que j'ai eue est plutôt positive. Mais je sais qu'il suffisait que les conditions météo soient un petit peu plus humides, on va dire, et ça aurait pu être tout à fait différent.
Claire, depuis qu'on s'est parlé dans le cadre de courses épiques la dernière fois en mars 2021, tu as enchaîné une foultitude de courses et plus particulièrement des ultras. J'ai trois petites questions. Hormis la Spine, sur laquelle on va avoir le temps de largement revenir tout à l'heure, est-ce que tu pourrais me dire, voilà, sur ces 2 dernières années, la course qui a connu un déroulement le plus inattendu, en tout cas qui était la plus surprenante pour toi?
La 360, le challenge que j'ai fait en novembre dernier, c'était la course un peu inattendue en effet, parce que j'ai commencé tranquille, je devais être dans le top 10, puis à la start list était une start list de malades, il y avait Franco Collet, il y avait Lucas, il y avait tout un tas de gens qui étaient très très forts. Enfin bon, quand je voyais la liste de départ, je me disais au mieux je ferais top 10, s'il y a de la casse, je ferais peut-être 7e ou 8e, et c'est vrai qu'au
Tu
final.
raisonnes au scratch d'emblée? Tu raisonnes pas
Ah
dans...
oui, sur les courses de 200 miles ou les backyards, je raisonne au scratch, hein, parce que je pense qu'à un moment, quand la course est supérieure à 250 km, 300 km, il y a juste plus vraiment de différence entre les hommes et les femmes. Ce que je vois d'ailleurs, parce que je fais toujours, enfin, sur les dernières courses que j'ai faites, plus de 200 km et plus, j'ai souvent fait top 5 en fait. Dès que la course est longue, supérieure à 200, 250 km, moi j'estime qu'il n'y a plus de différence entre hommes et femmes.
Donc cette 360, elle t'a surpris,
Ouais,
Zéa?
elle m'a surpris, voilà, parce que j'ai commencé top 10, tranquillou, bon, voilà, un peu en mode on va voir ce qui se passe. Et puis finalement, au bout de 100 km, je devais être deuxième. Puis j'ai fait quasiment toute la course en deuxième position et je me suis fait rattraper par le troisième et quatrième à 12 km de l'arrivée. Mais j'étais très contente de moi parce que j'ai fait toute la course toute seule et que c'était pas un objectif, donc j'ai fait ça un peu en mode voilou. Puis bon, la 360, c'est vraiment une aventure aussi parce que c'est un peu comme la Spagne, il y a des bases de vie tous les 50 à 60 km, sauf que là c'est complètement l'opposé de la Spagne, c'est-à-dire que là il faisait 50 degrés de plus, enfin on avait 35-40 degrés parfois. Et le problème de la 360, c'est trouver de l'eau, quoi, parce que à Gran Canaria il fait 40 degrés et il n'y a pas une rivière, il n'y a pas une source d'eau, il n'y a rien. Donc là, c'était vraiment l'opposé total de la Spagne. Et du coup, là, la gestion de l'eau, la gestion de la nourriture, etc., c'était vraiment le point le plus crucial. Et je trouve que j'avais bien géré. Donc, Et donc voilà, c'était une course vraiment inattendue parce que je m'attendais pas du tout à être. J'ai fini du coup quatrième, je crois. Ouais, c'est ça. J'ai fini quatrième et comme j'ai dit, j'étais deuxième jusqu'à 10 km de l'arrivée et je m'attendais pas du tout à ça. Surtout que j'ai eu une année 2022 un peu compliquée. J'ai été anémiée, donc jusqu'au mois de juillet, j'arrivais même pas. Même une course de 30 km, j'arrivais même pas à la courir jusqu'au mois de juillet. Donc j'ai corrigé ça et puis heureusement après j'ai vraiment repris de la forme. Donc c'était vraiment la première course où je me sentais vraiment très 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 bien depuis 6 mois quoi. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié cette 360 notamment en plus là au niveau navigation, c'est le grand n'importe quoi. On passe sur des sentiers qui n'existent pas et c'est vrai que la première fois que je l'avais faite, j'étais complètement novice en ça et je sais que j'avais perdu 9 heures. Il y a des moments où j'étais complètement paumée, j'avais attendu quelqu'un en mangeant un sandwich pour qu'il me débloque de là. Donc c'était la première fois où au niveau navigation, je gérais plutôt pas mal et au niveau eau. Et classement final, j'avais totalement géré. Donc j'étais très, 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 très contente et ça m'encourageait bien pour la spine après tir.
J'ai une seconde question pour laquelle la réponse sera peut-être la même. Je vais te demander la course qui avait été la plus accomplissante pour toi là, dans ces deux dernières années ou celle dont tu es le plus fier. Est-ce que c'est aussi cette 360
Là, du coup, c'est la spine parce que j'ai vraiment eu l'impression de très, très bien gérer et de prendre beaucoup de plaisir et de pouvoir courir jusqu'au bout, ce qui m'arrive pas forcément, surtout sur des courses de 300 km et plus. Mais là, j'avoue que j'ai même parfois sur les autres courses, j'avais pas mal subi le sommeil. Enfin, j'avais pas trop su comment le gérer et j'étais arrivée à un point où en fait j'étais tombée de fatigue. Alors que là, sur la spine, j'avais décidé de dormir tant et puis j'avais décidé de dormir à la base 4 à tant d'heures et finalement, je l'ai fait et j'ai pas eu de soucis et j'ai pu courir jusqu'au kilomètre 380. Bon, après, il y avait de la neige donc je pouvais plus trop courir, mais la spine, je trouve que j'ai plutôt très très bien géré, même si c'est perfectible et il y a toujours des points d'amélioration, c'est sûr.
Tu vas nous raconter tout ça en détail.
C'est ça.
La course la plus exigeante que tu aies faite récemment ?
Le Tour des Géants. C'est très exigeant, c'est très raide, ça monte tout le temps, ça descend tout le temps. Le cardio monte tout le temps aussi. Le Tour des Géants, c'est quelque chose. J'aimerais bien le refaire d'ailleurs, avec un peu plus d'expérience. Mais c'est une des courses les plus exigeantes physiquement, je pense, et mentalement. C'est vrai que j'avais beaucoup puisé mentalement.
Ton calendrier 2022, il a été extrêmement dense. J'en parlais avec plus d'une vingtaine d'ultras et seulement un DNF, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment un besoin irrépressible d'avoir ces fréquences soutenues de course. Est-ce que ça t'arrive parfois de ressentir de la lassitude ou de te dire « Ok, là, c'était peut-être la course de trop ou j'aurais pas dû » ou est-ce que tu fonctionnes avec ça, c'est l'adrénaline, c'est t'as besoin de te projeter très régulièrement dans ces défis-là au fil de l'année?
En fait, je fonctionne beaucoup. Comme j'ai dit, en fait, pour moi, les courses que je fais, c'est plutôt des courses d'entraînement pour mes gros objectifs, qui sont souvent des belles boucheries de plus de 300 km. Donc, forcément, pour s'entraîner à ce genre de course, il n'y a rien de mieux que de faire des courses de 100 ou 160 km. Et j'avoue que l'année dernière, quand j'étais anémiée, ça a été parfois un peu compliqué, mais j'étais anémiée, j'étais très, très, très fatiguée, mais j'ai jamais ressenti de lassitude. J'ai toujours adoré les courses que je faisais, même si j'étais pas au top de ma forme. Et de tonnerre, c'est mon principe. Je veux dire, si j'ai pas de plaisir, je fais pas la course, c'est tout, hein. Donc, tant que j'ai du plaisir, je continue à enchaîner les courses. Et puis, le jour où j'aurai plus de plaisir, j'arrêterai, quoi. Je me mettrai au bowling ou au bilboquet, je sais pas. Non, j'ai jamais eu de lassitude et je me suis toujours assurée de bien récupérer de mes courses avant d'en faire une autre. C'est ça aussi le point le plus important et c'est aussi pour ça que j'arrive à enchaîner tant de courses. C'est que finalement, je récupère assez vite et je continue à m'entraîner. Enfin, je prends pas comme certains une semaine off avant la course puis une semaine off après la course parce que sinon je m'entraînerai plus de l'année. Je prendrai que des semaines off, je crois. Mais non, justement, les courses que je fais sont la plupart du temps pas des objectifs, sont comme des grosses sorties longues d'entraînement. Et c'est ça qui me plaît aussi. Puis j'en fais aussi beaucoup près de chez moi, donc sans avoir besoin de forcément traverser ou voyager pendant un jour. Parce que j'habite près de la Suisse et la Suisse, c'est juste incroyable. Donc voilà.
Est-ce que c'est ta pratique et justement la fréquence et le rythme avec lequel tu vis tes courses dans une année. Est-ce que ça peut susciter des questionnements? Est-ce que tu as beaucoup le droit quotidiennement à pourquoi tu fais ça? Ou c'est quoi l'intérêt? Une espèce de forme d'incompréhension sur la façon. Alors, je pense que c'est vrai de manière générale sur la pratique de la course à pied, quel que soit le niveau. Parfois, on se pose un peu l'entourage ne comprend pas à quel point ça peut être addictif. Enfin, je pense comme toute passion, mais voilà, même moi, je sais qu'à mon tout petit niveau, tu vois, ça peut susciter un certain nombre d'interrogations. Est-ce que toi, tu es confronté aussi à ça? Une forme de jugement?
Après, j'ai toujours, dans le domaine professionnel, j'ai toujours, comment dire, jamais trop dit ce que je faisais. Enfin, un peu, bon, là, je suis partie pour l'Espagne, forcément. Il fallait que j'explique à mon chef pourquoi je partais 4 jours au mois de décembre, enfin, au mois de janvier. Mais sinon, je ne l'ai jamais trop et je m'en vante jamais trop de toutes les courses que je fais. Et je pense que mon chef et mes collègues ne sont pas trop au courant. Et après, dans mon entourage, oui, je pense qu'au début, ils commençaient. Enfin, je pense qu'ils ont vite compris que voilà, que j'étais un peu hors norme et que je faisais ça parce que j'arrivais à le faire et que ça me faisait plaisir, mais que c'est quelque chose de totalement inhabituel, etc. Mais c'est vrai que pas bah, souvent. Enfin, j'ai eu beaucoup de problèmes. Enfin, pas vraiment eu de problèmes, mais c'est vrai que mes parents, pendant un moment, m'ont dit, mais est-ce que tu cours pas un peu trop et tout. Bon, je pense que maintenant, quand ils ont vu d'autres exemples de gens qui finalement sont pires que moi, bon, ils se disent que ça va.
Ça pourrait être pire. Tu l'as envoyé le compte Instagram de Lucas Papi.
Oui, voilà, ou même d'autres. Il y a vraiment d'autres coureurs qui sont incroyables, qui font des choses extraordinaires et qu'on n'entend pas du tout, dont on n'entend pas du tout parler, et qui font largement pire que moi. Moi, je fais une course peut-être toutes les 2 semaines, tous les mois, toutes les 2 semaines. Il y en a, ils font juste des courses tous les week-ends, quoi. Bon, pas au même rythme que moi, mais c'est juste incroyable, quoi.
Tu as connu une année 2022 donc très riche, très dense. Il y a une fin d'année qui a été tonitruante avec la Transgrande Canaria, ta victoire à Koulamanen, ta Diagonale des Fous avec une 11e place, ta 21e place à l'UTMB. Voilà, ça a été une fin de saison assez géniale. L'année, elle n'a pas été simple tout à l'heure. Tu l'as évoqué tout à l'heure. En fait, il a fallu un rassemblement d'équipe de France pour que tu prennes ou que tu comprennes surtout la raison de l'espèce de petit trou d'air que tu connaissais, notamment qui a un peu connu son apogée au mois de juillet, pour te donner un peu des clés de compréhension de ce qui est en train de se passer et de la fatigue que tu ressentais depuis des mois.
Oui, heureusement que j'ai fait cette prise de sang, parce que c'est vrai que sinon je continuerais à me poser des questions, je pense.
C'était quoi ton ressenti, un épuisement profond?
Oui, j'étais extrêmement fatiguée. J'avais le cardio qui montait à 100 à l'heure. J'étais extrêmement fatiguée pour tout. Hein, rien qu'aller faire un petit footing, ça me fatiguait. J'allais faire un cours de vélo, ça me fatiguait. Alors que d'habitude, je les enchaîne sans aucun problème. Et puis, c'est vrai que c'est quand j'ai identifié le problème et que j'ai commencé à prendre des compléments en fer, et au bout d'un mois, que je me suis rendu compte que j'étais vraiment au fond du trou, quoi, que j'avais une condition physique qui était celle d'un cancéreux en phase terminale, quoi. Donc, il m'a fallu 2-3 mois pour retrouver des conditions, enfin pour retrouver des sensations à peu près normales, et puis encore 2 autres mois pour retrouver ma forme physique d'avant anémie, quoi.
Et le moral tenait dans ces moments-là? Est-ce que tu avais aussi une perte d'envie, une perte de plaisir, de doute, de lassitude d'être dans cet état-là?
De plaisir, non, parce que j'adore courir. Donc, même si je cours et puis à l'entraînement, je m'en fiche, je regarde pas du tout ma montre. Je suis même plutôt souvent à faire des footings à 8 à l'heure, voire même à 7 à l'heure. Je m'affole jamais trop. Je m'en fiche, à vrai dire, je regarde pas ma montre. Mais c'est vrai que quand tu fais un trail que d'habitude tu fais en 22 heures et que là tu mets 40 heures, tu te dis oh là là, c'est pas normal, et c'est pas non plus hyper agréable d'être en PLS dans des montées, quoi. Et c'est vrai qu'au mois de juillet, ouais, je me posais un peu la question. Enfin, je me demandais surtout si ma méthode d'entraînement avait pas atteint ses limites, si faire trop de volume, si c'était pas le moment où mon corps me disait stop, en fait.
C'est une méthode autodéterminée ou t'as un entourage qui te guide?
Non, j'ai pas de coach, je fais avec mon expérience, avec mon ressenti, et j'estime que pour l'instant ça marche plutôt pas mal.
On peut le dire.
Vu le niveau d'endurance que j'ai à 33 ans. Et donc, non, c'est plutôt une expérience. Enfin, c'est basé sur mon expérience personnelle, sur ce que j'ai envie de faire aussi, parce que je déteste faire de la VMA, des choses comme ça. Mais j'ai identifié certaines zones. Enfin, il faut que je progresse en montée, il faut que je progresse en endurance, il faut que je progresse en pas mal de choses. Et je sais à peu près faire ce qu'il faut pour progresser, sans faire de la VMA, donc c'est cool. Mais Mais voilà, mais c'est aussi basé sur faire beaucoup, beaucoup de volume, faire beaucoup d'heures, sortir beaucoup, être beaucoup dehors, beaucoup courir, etc., à l'hurlante. Et enchaîner aussi, voilà, aussi ma méthode de faire des courses pour m'entraîner, etc. Donc c'est vrai que au mois de juillet, je me suis vraiment demandé, surtout que j'étais blessée également, parce que forcément, quand tu es anémie, tu as aussi des capacités de récupération qui sont moindres, et du coup, tu te blesses. Et je m'étais même carrément demandé à un moment si j'avais pas de l'arthrose, si la course à pied était juste complètement finie pour moi, parce que j'étais arrivée à un point où j'arrivais même plus à courir 100 mètres, en fait. Mais donc, on a fait cette prise de sang, on a identifié le problème. J'ai aussi eu, lors du stage de l'équipe de France, des kinés qui m'ont regardé et qui m'ont dit que c'était juste des problèmes aux mollets, que c'était pas de l'arthrose. Et du coup, le moral ça a été dur pendant 2, 3 semaines. Et puis après, je me suis juste dit, écoute, t'as 3 semaines avant l'UTMB, 6 semaines avant les championnats d'Europe de 24 heures, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu peux, tu prends du fer à fond, et puis tu fais ce que tu peux pour t'entraîner sans pouvoir courir, parce qu'à l'époque j'étais blessée, je pouvais pas courir. Puis au final, j'ai plutôt bien sauvé les meubles sur l'UTMB, parce que je fais 2 heures de moins que l'année d'avant où je l'avais fait totalement valide. Et puis au championnat d'Europe de 24 heures, je fais 232 km, ce qui était juste complètement inespéré, en sachant que 4 semaines avant, je pouvais même pas courir, quoi. Donc voilà, ouais, ça a été une année très compliquée, mais je pense que c'est le genre d'année où on en ressort beaucoup plus fort et c'est justement, ça m'a appris beaucoup de choses pour pouvoir gérer des courses de 200 miles où forcément on a aussi des hauts et des bas et souvent des bas très très bas et où il faut réussir à avoir le mental qu'il faut pour rebondir et puis finalement continuer la course et bien réussir sa course.
Avec l'équipe de France de 24 heures, vous avez été vice-championne d'Europe. Est-ce que cette approche collective qui était nouvelle pour toi, en tout cas dans le cadre de la course à pied, qu'est-ce que ça t'a apporté au regard des expériences plus individuelles par la force des choses que tu vivais jusqu'alors? Qu'est-ce que ça t'a apporté?
C'est vrai qu'au départ, j'imaginais pas que porter le maillot de l'équipe de France et d'être une équipe de 6 personnes, je pensais pas que ça me galvaniserait autant. Enfin, je suis assez solitaire, on va dire. Puis quand je fais mes trails, je suis souvent toute seule. Et c'est vrai que le côté collectif, je l'avais un peu vécu à l'escrime parce qu'on avait aussi une épreuve par équipe, mais j'ai jamais ressenti cette comment dire cette c'était pas une pression, c'était une pression, mais une bonne pression. Donc c'est vrai que pendant toute la course, j'étais en mode déjà on s'encourageait dès qu'on se croisait, dès qu'on croisait quelqu'un de l'équipe de France, on s'encourageait. Et puis le fait de porter le maillot, ouais, ça change tout, quoi. C'est un peu comme le costume de Superman, en fait. On se dit qu'on est un super héros, pas pour son pays, mais pour son équipe, pour les autres filles qui sont là, et aussi pour tout l'encadrement qu'on avait à côté. Parce que la plupart des courses que je fais, j'ai pas d'assistance. Et c'est vrai que là, on avait tout un staff, on avait un docteur, on avait un kiné, on avait les coachs qui nous donnaient les ravitaux, etc. Et rien que le fait de se dire qu'il y a des gens qui sont là, qui vont aussi passer 24 heures à nous voir courir, à nous encourager, forcément, on se dit, on n'a pas le droit à l'erreur, hein, et qu'on va donner le meilleur de soi. Donc c'est vrai que c'était incroyable. Enfin, j'ai vécu des émotions comme jamais. Puis d'ailleurs, j'ai donné le meilleur de moi-même comme jamais. J'ai pas pu marcher pendant 3 jours après. Mais c'était incroyable. Et c'est vrai que je n'aurais jamais imaginé que porter le maillot de l'équipe de France comme ça serait aussi galvanisant et aussi une expérience aussi fantastique, en fait.
C'est la première d'une longue série, j'espère.
Ouais, normalement, là, je devrais aller au championnat du monde à Taipei l'année prochaine. Donc, on va remettre ça et maintenant, on va flinguer des Américains et pas seulement des Allemands, quoi.
Claire, c'est un point sur lequel j'avais échangé récemment avec Cascade Verte et que j'ai encore vu passer hier par l'intermédiaire de Rémi Jégard. C'est l'idée de se dire qu'à performance équivalente, peut-être si tu étais américaine, tu aurais peut-être une reconnaissance différente. Est-ce que c'est quelque chose qui est un sujet pour toi après lequel tu cours? Est-ce que c'est au contraire, ça te va bien d'être sous les radars et c'est plutôt un choix? Est-ce que tu vis ça comme une anomalie ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui te va assez bien et toi tu traces ta route pour toi d'abord?
J'avoue qu'il y a un moment, ça m'avait un peu. Je me demandais pourquoi je m'entraînais autant, pourquoi j'essayais de m'améliorer sans arrêt quand je voyais des gens qui avaient. Je dis pas qu'ils ont aucun talent, mais qui avaient moins de mérite, on va dire, à être mis en lumière. C'est vrai que je me demandais pourquoi je m'entraînais 6-7 heures par jour, parfois, sur les semaines d'entraînement chargées, pourquoi je le faisais. Puis après, je me suis dit, oui, mais pourquoi je le fais? Parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas. des milliers de félicitations de gens qui n'y connaissaient rien au sport. C'est vraiment la reconnaissance de mes pairs. Et c'est vrai que d'avoir un des meilleurs ultra-runners français qui te dit « Ouais, bravo, t'es au-dessus du lot » ou d'avoir bah, là, sur la spine, Meren, enfin, le recordman de backyard qui me dit « Ah, t'étais trop rapide, j'ai pas réussi à te rattraper ». Bah c'est pour ça aussi en fait, c'est vraiment la reconnaissance de ses pairs, c'est d'avoir Lucas qui m'invite à faire une balade avec lui parce qu'il est
une petite balade.
Ouais, une petite balade de 1000 km à Gran Canaria ou qui après veut faire une course en duo avec moi, voilà, c'est le genre de finalement ça vaut toutes les couvertures.
C'est la plus belle des reconnaissances.
Et voilà, c'est la plus belle des reconnaissances ou même là s'entendre dire que j'aurai le niveau pour aller à la Barclay. Et je préfère largement qu'on me dise ça plutôt que d'avoir une couverture ou un article sur moi dans Picsou Magazine, quoi.
Picsou Magazine, c'est classe en même temps.
Ah oui, j'avoue que c'est classe.
Ça serait pas mal.
J'avoue que ça me plairait quand même.
Merci beaucoup, Claire. On va passer maintenant à notre rubrique suivante qui est le questionnaire de Proust. Et la première des questions que je voulais te poser dans le cadre de cette rubrique, c'était la décision, ou en tout cas une décision qui aurait changé ta vie à jamais.
Bah oui, moi la décision qui a le plus changé ma vie, je crois, c'est de donner mon numéro à l'espèce d'inconnu bizarre qui me l'a demandé au restaurant universitaire de l'ENS Lyon. Et ce gars bizarre est après devenu mon mari. Quoi.
Est-ce qu'il est toujours bizarre ?
Il est encore plus bizarre maintenant, parce qu'en plus il court maintenant.
Aïe, aïe, aïe.
Mais j'avoue que c'est, ouais, il a totalement changé ma vie. J'étais.
C'était quand ?
C'était en oula.
Ah, à ce moment-là.
Une dizaine d'années, je dirais, ouais. Oui, ça doit être il y a une dizaine d'années, je pense. J'étais encore étudiante à l'époque et donc lui aussi était étudiant. Et ça a changé ma vie dans le sens où il m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Et puis sans lui, j'aurais jamais, je pense, découvert le trail ou la course à pied en compétition. Et je ne vivrais pas aujourd'hui à Bâle, enfin, je ne travaillerais pas en Suisse et je ne serais pas dans un cadre magnifique et propice à la course de montagne. Et puis, il m'a beaucoup, beaucoup apporté. Moi, j'ai apporté la course à pied et puis lui, il m'a apporté la confiance et m'a fait découvrir le trail et la course en compétition et plein d'autres choses aussi.
Je suis sûr que tu l'as apporté d'autres choses que la course à pied aussi.
Oui, mais principalement ça. C'est pas la cuisine que je lui ai apporté en tout cas.
Deuxième question pour toi, Claire. La chose que tu choisirais de faire ou les choses que tu choisirais de faire si tu avais des ressources illimitées ?
Moi, si j'avais des ressources illimitées, je partirais faire un tour du monde en courant. Je ferais 60 km par jour, je me ferais tous les pays du monde. J'arrêterais dans 20 ans quand je serais fatiguée.
Ça donne envie ?
Ouais.
Franchement ?
Je me ferais tous les trails, tous les sentiers de randonnée qui existent au monde. Oui, c'est un rêve, quoi.
Avec ton mari, puisqu'il court maintenant ?
Avec mon mari, ouais. Voilà.
Troisième question, Claire. Trois choses que tu emmènerais sur une déserte, donc ça pourrait être aussi sur ton tour du monde en courant, si tu avais trois choses à emmener avec toi.
Bah, une tonne de bouffe.
Ouais.
C'est important quand même de bien manger. Une tonne de paires de chaussures, parce que sur mon île déserte, je me vois bien courir partout. Et un téléphone cellulaire pour que quand j'en aurais marre d'être toute seule sur mon île déserte, on puisse venir me chercher, quoi.
D'accord. Il faudrait que tu fasses installer une antenne 4G sur ton île déserte.
C'est ça, la 4G, comme ça j'aurai Netflix en plus. C'est parfait. Je pourrais continuer à aller sur Facebook et mettre des photos de plages paradisiaques, bon, en disant pas que l'île est déserte, mais c'est pas grave.
Merci beaucoup, Claire. Je vais passer maintenant à la présentation de la course qui va nous intéresser aujourd'hui, ta course épique. C'est donc la Spine, nos auditeurs l'auront compris. C'est une course d'ultra-trail qui a vu le jour en 2012 et qui se déroule au mois de janvier chez nos voisins anglo-saxons sur une distance d'environ 268 miles, soit environ 431 kilomètres. Ça date des frissons, juste cette distance-là, là, c'est impressionnant. La course, elle relie, je peux mal le dire, Edale en Angleterre, à Kirkcaldy en Écosse, le long de la Pennine Way, l'un des sentiers nationaux les plus exigeants de Grande-Bretagne et certainement le plus emblématique. Ce sentier il traverse certains des terrains les plus beaux et parfois les plus difficiles d'Angleterre, notamment le Peak District, le Yorkshire Dales, le parc national de Northumberland, le mur d'Adrien, qui est un bon souvenir pour toi, je crois, les Cheviots ou encore les Scottish Borders. Et les concurrents ont la chance d'avoir 7 jours pour pouvoir arriver au terme de cette course. Je te laisserai nous en dire un peu plus clair tout à l'heure sur un peu les grands principes logistiques et les contraintes qui sont imposées aux coureurs. Cette Spine Race, elle est considérée souvent comme l'une des courses d'endurance les plus difficiles au monde. Elle s'est d'ailleurs autoproclamée Britain's Most Brutal Race. Donc voilà, la course la plus brutale d'Angleterre, je trouve ça assez génial. Très vendeur finalement, c'est à vouloir te dissuader, ça te donne envie d'y aller, c'est quand même bien fait. En tout cas pour j'imagine pour le type de caractère comme le tien. Le cocktail, il est évidemment corsé. On peut imaginer à quoi ressemble une course en Angleterre au mois de janvier. Donc on est à peu près sûr de trouver de la glace, de la neige, du verglas, des vents très froids, des températures négatives, de l'escalade, de la gadoue. Voilà, un vrai délice ou un vrai délire, au choix. Donc ce défi qui est incontestablement épique, il va mettre à rude épreuve le physique et la force mentale de ses participants au fil de ces 11 000 mètres de dénivelé positif. Le record féminin, il est dingue. Il est détenu par Jasmine Paris en 83 heures et 12 minutes, sachant que le record masculin est détenu, lui, par John Kelly en 87 heures et 53 minutes, soit 4 bonnes heures de plus. Et voilà.
Ah, justement, il vient d'être battu, là.
Oui,
Ils ont fait 84 heures et quelques.
Absolument, c'est vrai.
Mais oui, c'était John Kelly avant.
Voilà, et c'est Jasmine, en tout cas, qui a encore ce record. Oui. Et ça conforte ce que tu disais tout à l'heure sur les longues distances aussi, ce nivellement entre les performances des hommes et des femmes. Et puis il y a des variantes de cette Spine Race, puisqu'il y a un format qui est largement plus accessible, qui fait seulement une centaine de miles, en gros, qui est réalisé en 60 heures maximum. Et puis il y a une version estivale qui se tient au mois de juin. J'ai vu les photos, ça donne plus envie, en tout cas pour un coureur de mon niveau, ça semble un peu plus,
j'avoue,
un peu plus plaisant. Voilà, et cette année vous étiez 157, pardon, à prendre le départ de cette édition 2023. Voilà pour la description de la course qui va nous intéresser aujourd'hui. Tu la connais, tu l'avais déjà eue, la revoilà, c'est la question qui pique. C'est toujours un grand moment de n'importe quoi. Je l'ai mentionné tout à l'heure, la coureuse britannique Jasmine Paris a remporté la Spine Race en 2019 en 83 heures, devenant ainsi la première femme à remporter l'épreuve. C'est un exploit qui est incroyable, d'autant plus quand on sait qu'elle a battu le record précédent qui était détenu par un homme de plus de 12 heures et qu'elle est arrivée avec près de 15 heures d'avance sur le deuxième. Voilà. Jasmine est évidemment une athlète amateur et puis elle avait pris cette semaine-là une semaine de congé pendant son doctorat en sciences vétérinaires pour participer à la course. Voilà ma question qui pique pour toi, elle est à peu près sérieuse, à peu près cohérente par rapport à la course, une fois n'est pas coutume. À quoi d'inattendu Jasmine a-t-elle passé une partie de ses 7 heures de pause pendant la course? Est-ce que tu as entendu parler de cette histoire?
Je sais, oui, elle avait tiré du lait pour son enfant.
Exactement, bravo, elle a passé à tirer du lait pour sa fille de 14 mois. T'es affûtée, dis donc, bravo.
C'était incroyable. Ah non, mais bon. Ouais, c'est pour ça que je me suis inscrite à la Spine. Hein.
Ah, j'imagine. Parce que c'est une course olé olé, un peu.
Ouais,
c'est ça. Là, c'est le bon moment d'arrêter cette question typique. Claire, on va se plonger dans ta Spine. J'aurais voulu que tu nous expliques un peu à quel point tu lorgnais sur cette course depuis longtemps. Est-ce que tu l'avais spoté et c'est un projet depuis quelque temps et tu as voulu construire ton expérience jusqu'à cette course-là ou est-ce que c'est arrivé voilà, plus ou moins par hasard, plus récemment?
Comme à peu près toutes les courses à la con que je fais, c'était le plus grand des hasards, en fait. En fait, je me suis inscrite à la Spine en 2020, pour l'édition 2021, qui était donc juste l'année du Covid. Seulement, trois semaines avant la course, il y avait eu pas mal de désistements, justement, à cause du Covid. Et ils avaient... parce que normalement, la Spine, normalement, elle est complète. Enfin, on s'inscrit là, genre en février, et la course est complète en 3 minutes. Hein. Donc après, il y a une liste d'attente, mais... En gros, si vraiment vous voulez faire la Spine, il faut regarder quand est-ce que c'est les inscriptions et s'inscrire tout de suite.
C'est fou tous ces gens qui ont envie de brutalité dans leur vie.
Oui, non, mais c'est incroyable, c'est démentiel. Hein. ouais. Ça prouve à quel point les gens sont malades. Donc bref, voilà, en 2020, donc voilà, un mois avant la course, il y a eu beaucoup de désistements du coup à cause du Covid et ils avaient réouvert. Je crois qu'ils avaient réouvert 50 places en disant que oui, là, dans l'état actuel des choses, la course aurait lieu. Donc, moi, je n'ai pas trop réfléchi. C'était le Covid. Ça faisait 4 mois qu'on était confinés. Je me suis dit, bon, j'ai envie de bouger un peu. Ça a l'air cool et tout. Je ne connaissais pas. Hein, je ne connaissais pas plus que ça. Je connaissais juste l'histoire de Jasmine. Et puis, je ne savais pas exactement ce que c'était, à quel point c'était horrible, les conditions météo. Et du coup, je m'étais inscrite. Bon, pas de bol. 2 semaines plus tard, même l'Angleterre était complètement... confinée par le Covid et du coup ça n'a bien sûr pas eu lieu. Après, je devais du coup la faire l'année d'après, donc en janvier 2022. Et puis là, pareil, janvier 2022, 2 semaines avant la course, il y avait interdiction de voyager en Angleterre, de la France, re-Covid quoi. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai fait cette année. Donc en 2020, quand je me suis inscrite, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et j'avoue qu'en 2 ans, j'ai eu le temps de m'instruire et de me dire que c'était pas du tout une course pour moi. parce qu'il y avait de la boue, du froid, de la pluie, enfin tout ce que je déteste, tout ce dont je suis incapable de courir plus de quelques heures dedans. Donc j'avoue que j'ai longtemps hésité à me désinscrire et puis bah, comme j'ai un peu complètement oublié, bah, j'ai zappé la deadline pour me désinscrire et comme la course coûtait un peu cher, bah, j'ai fait bon, bah, on va y aller, on va pas cracher sur le prix du dossard, quoi. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée là en 2023 sur la Spine, enfin sur la ligne de départ de la Spine. Pour te dire à quel point j'étais motivée, normalement il y a une liste de matériel obligatoire qui fait 3 pages. Moi, 2 jours avant la course, je n'avais pas encore tout. La veille de partir, je partais le samedi matin super tôt. Le vendredi, j'étais à courir à droite à gauche, chercher les derniers trucs de mon matos obligatoire. J'avais 2 ans pour me préparer quand même.
Et tu as bouclé ta valise, je crois, 2 heures avant de partir prendre l'avion, c'est ça?
C'est ça, je me suis couché à 4h du mat pour finir mon drop bag. Et à 5h, je prenais un taxi pour aller à l'aéroport. Enfin bon, truc, faut absolument pas faire ça, bah, je l'ai fait. Je l'ai fait. Et pourtant, j'avais 2 ans. Hein. J'avais 2 ans pour faire ça. Donc voilà.
Tu avais mis en place des choses en particulier en vue de cette course-là, ou l'idée, c'est plutôt de surfer sur ta forme de fin d'année, ou est-ce qu'il y a vraiment des choses à ajuster que tu as pu intégrer dans ta préparation qui étaient très spécifiques, ou ça, c'est pas vraiment réaliste?
Normalement, il y a des choses quand même à faire. Déjà, aller courir quand il fait froid et quand il pleut. Bon, j'ai eu la flemme. Non, c'est pas que j'ai eu la flemme, c'est surtout que le mois de décembre, bah, il a fait 15 degrés. Donc, l'entraînement, l'adaptation au froid, bah, walou, hein. Même avec la meilleure volonté du monde, bah, j'étais en short et t-shirt quasiment tout le mois de décembre. Et puis, bah, l'autre chose que la plupart des gens font, c'est s'habituer à courir avec un sac à dos chargé, parce que donc, y a le matériel obligatoire qui est non négligeable, avec notamment un sac de couchage, un bivy, un réchaud, enfin bon, des lunettes.
Voilà, le poids d'ailleurs maximal est assez évocateur à lui seul. C'est 20 kilos, hein, c'est ça,
Non,
ça c'est le drop bag, pardon. Ça, c'est le drop bag.
Le drop bag, c'est 20 kilos maximum. Après, le sac qu'on a sur le dos, honnêtement, moi j'ai optimisé de chez optimisé. Il faisait 5 kilos sans l'eau et sans la bouffe. Donc tu rajoutes bien 2-3 kilos. Donc j'étais à 8 kilos sur moi, quoi. Et je pense que c'est le minimum de chez minimum qu'on peut faire, parce que là je peux plus. Je ne pouvais pas vraiment optimiser beaucoup plus. Donc voilà, donc aller courir avec un sac à dos chargé pour s'habituer à courir avec une charge sur le dos, ouais, c'est quelque chose que j'aurais dû faire. Je l'ai fait une fois, enfin je suis partie 1 kilomètre avec un sac à dos chargé, puis je suis revenue parce que ça me gonflait, et puis j'ai fait beaucoup de volume, j'ai beaucoup couru. Enfin, les 420 kilomètres, c'était pas un souci. Mais je ne l'ai pas fait avec un sac à dos chargé et je ne l'ai pas fait sous la pluie dans des conditions météo horribles. Donc, j'avoue que je n'étais pas non plus très, très prête à la Spine. Je n'étais pas prête du tout, quoi. J'étais un peu en mode, bon, on verra bien ce qui se passe. Et puis, voilà.
Il y a deux autres aspects qui peuvent être aussi, enfin, qui rajoutent du piment à la course. Il y a notamment le fait qu'il n'y ait pas de balisage. Donc, on se débrouille avec sa carte, sa boussole. Il y a très peu de ravito, tu l'as dit tout à l'heure dans une de tes précédentes courses, mais il peut y avoir vraiment des distances importantes. Et surtout beaucoup de temps entre, bah, c'est pas tant le nombre de kilomètres, mais aussi parfois c'est le nombre d'heures qu'il peut y avoir, quasiment une vingtaine, je crois, au maximum, de ce que tu m'avais raconté dans nos échanges préliminaires. Donc ça rajoute aussi de la complexité à la course. Ça t'allait bien?
Oui, tout à fait. Bah, après, la navigation, quand tu fais la Trans-Gran Canaria 360, où tu navigues sur des sentiers qui n'existent pas, bon, tu te dis que t'es blindé. Tu te dis, bon, je devrais réussir à pas me perdre. Ça devrait aller. suivre une trace GPS, ouais, ça va, je sais le faire. Bon, après, c'est vrai que sur la Spagne, il y a quelques. On est quand même on est sur le Pennine Way, qui est un sentier balisé et comment dire, fléché, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quelques portions qui, de nuit ou sous la neige, étaient un peu compliquées à gérer. Mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Donc, ça va. Par contre, ce qui était difficile à gérer, c'est effectivement les bases de vie qui sont très, très espacées, quoi. Ça va d'entre la plus courte distance, c'est 55 km, mais 3000 des plus. Donc, tu mets quand même un certain temps. Et bah, du CP1 au CP2, il y a quand même 100 km, quoi. 100 km, bah, là, j'ai mis 20 heures, quoi. Et j'étais parmi les plus rapides. Donc, faut imaginer ceux qui sont un peu plus longs. Et eux, ils sont carrément 30 heures dans la nature, quoi. Donc sur la Spagne, ouais, il n'y a que 5 bases de vie, donc ouais, c'est passé entre 55, enfin je crois que c'est 75 la première, 100, 55, 65, 64, 67, donc ouais, et puis plus tu avances dans la course, plus t'es lent aussi, donc C'est difficile. Et sur les deux premières jambes, enfin, sur les 175 premiers kilomètres, tu as des ravitaux non officiels, on va dire. Donc, tu as finalement tous les 30 kilomètres, tu as un truc, tu as de l'eau, tu as un bar, tu as quelque chose. Et sur la fin, tu es vraiment complètement perpète dans les marais ou dans un massif montagneux. Donc là, tu n'as rien, rien du tout, quoi. Pendant 70 kilomètres. Et c'est pour ça qu'aussi, il y a certains checkpoints où tu es obligé d'avoir au minimum 3000 calories sur toi. Et c'est compréhensible parce que bah, tu sais que pendant les 60 prochains kilomètres, tu n'auras rien. Tu auras zéro bouffe, tu auras zéro flotte. La flotte, ce n'est pas trop un problème parce qu'il y a quand même beaucoup de rivières. Moi, j'avais une gourde filtrante. Et puis, tu t'en prends plein la gueule aussi. Normalement, au niveau flotte, tu n'es jamais trop, trop emmerdé. Tu en as plein sur toi. Mais la bouffe, ouais, c'est un gros, gros souci qu'il faut gérer quand même.
Je sais pas comment tu fais, Claire. Je suis admiratif. C'est un truc de dingue. Je sors de ma casquette, la professionnelle, mais c'est incroyable. Claire, qu'est-ce que tu as comme objectif en tête sur la course? Est-ce qu'il y en a un autre que d'essayer de se tirer de cette spine à peu près décemment, ou est-ce qu'il y a une quête de podium ou plus ou le plaisir d'abord?
J'avoue que je savais que ça allait être binaire. C'est soit je me crachais, j'allais complètement mal gérer un truc et ça allait mal se passer et j'allais abandonner, soit j'irais au bout et je ferais ça bien. Parce que vu l'état de forme que j'avais, je me disais ouais, soit je me blesse ou soit je me foire totalement et ça va être un DNF. Ou soit, ouais, je pensais un top 10, ça m'aurait déjà plu. Top 5, ça aurait été parfait. Bah, ça tombe bien, c'est ce que j'ai fait. Et j'avoue que, ouais, tu sais jamais ce qui peut se passer. L'année dernière, c'est un bon ami à moi qui a gagné la Spine dans un temps qui me paraissait tout à fait accessible. Et finalement, j'aurais fait le temps que j'ai fait cette année, je l'aurais fait l'année dernière, je gagnais la Spine.
T'arrives à estimer facilement ça en amont, le temps que tu peux mettre sur une course quand tu l'as jamais faite? Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est
Ouais,
un peu mouillé?
je regardais les coureurs qui avaient à peu près mon niveau. Bon après, j'avoue que c'est un peu comment dire prétentieux de dire que j'avais le niveau que j'ai le niveau de Eon qui a gagné la course plusieurs fois et qui a mis 93 heures l'année dernière, mais c'était un peu coupé. Donc en gros, j'estimais son temps à 98 heures, mais après, voilà, j'estimais que je pouvais faire moins de 100 heures et au final, j'ai fait moins de 100 heures, donc c'était cool. Non, j'estimais que ça allait, que j'allais mettre à peu près le même temps que sur un Thor, peut-être un poil plus rapide. Et au final, ouais, c'est ce que j'ai fait, quoi.
Si t'as une boule de cristal, je veux bien que tu me donnes les chiffres du loto la semaine prochaine, Claire.
Ah non,
Visiblement,
je les garde pour aller faire mon tour du monde.
t'as l'air de bien avoir une bonne intuition, en tout cas. Et puis, enfin, aussi beaucoup de rationnel, je pense, pour réussir à estimer le temps que tu vas passer dehors. Claire, on a compris, l'avant-course, ça a été un peu chahuté. Ça s'est un peu monté à l'arrache. T'as le plaisir de retrouver des petits camarades de jeu. Voilà, d'autres coureurs que tu apprécies, avec qui vous avez pu vous créer une petite bulle sympathique, voilà, sur place, avant le départ. On est maintenant le 15 janvier 2023, donc c'était il y a vraiment très peu de temps. Le départ prévu à 8 heures. Est-ce que tu peux nous parler de l'ambiance et du contexte plus général là, au moment du départ? C'est plutôt humide, de ce que j'ai compris. Et puis toi, comment tu te sens au moment de te lancer dans cette course sur laquelle tu n'avais pas au départ fondamentalement envie d'aller?
Bah alors, l'ambiance, bah, t'as tout dit, quoi. Il flottait, enfin, il y avait une putain de pluie de malade, donc il flottait à seau. Donc l'ambiance a été un peu refroidie, quoi. Enfin, en tout cas moi j'étais pas très bien. Je commençais à me demander si j'avais fait les bons choix de veste de pluie déjà, parce que j'avais pas pris une Gore-Tex, j'avais pris une veste un peu plus fine, etc. Donc je commençais à me dire ouh là là, parce que finalement le départ était à 8 h et on lâche nos drop bags et on récupère nos trackers et après on avait une demi-heure à attendre, quoi. Et ouais, j'ai attendu une demi-heure dans la pluie, j'étais trempée, je me disais ouh là là. Ouais, ça va être cool si pendant les 12, enfin si pendant les 24 prochaines heures il pleut comme ça, je suis mal quand même. Donc j'avais un peu peur, quoi.
Tu fais le choix de partir plutôt tranquillement, ce qui n'est pas forcément le cas de la tête de course. Ça part plutôt vite, en tout cas pour les premiers.
Ouais, ça part va,
Toi, tu
ça part
t'emballes
très
pas,
vite.
tu es en mode gestion, allez-y, partez devant.
Ouais, c'est ça. Tonnerre sur ce genre de course, il faut courir à son rythme. J'ai déjà fait l'expérience de partir trop vite et de finir à 3 à l'heure. Donc surtout quand on part sur 420 km, finalement, j'avais jamais fait de course de plus de. Bah, le plus gros que j'avais fait, c'était le Thor avec 350 km. Donc là, t'en rajoutes quand même 80. Donc c'est pas rien, quoi.
Cette première journée, on peut le dire, Claire, ça a été une galère. C'était quand même assez compliqué. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui a marqué cette journée-là, entre des chutes, des petits passages de barrières et autres, enfin, un terrain pas idéal, des conditions compliquées. Est-ce que tu peux nous donner un peu à comprendre comment s'est passée cette première journée?
Ouais, parce que j'imaginais que ça allait être très boueux, que le terrain allait être difficile. Puis en plus, il flottait à saut, il a flotté pendant quasiment toute la journée. Enfin, quand il s'arrêtait de flotter, c'était pour neiger. Donc voilà. Et oui, et donc je m'attendais à avoir les pieds mouillés, mais en fait, on a les pieds mouillés en permanence. On patauge dans de la boue en permanence, quoi. Limite, parfois, le sentier, c'est un ruisseau. En plus, sur cette première portion, on traverse 6 ou 7 fois, voire plus des rivières, et quand je dis qu'on traverse des rivières, on a de l'eau jusqu'aux genoux, quoi. Avec du courant, et il faut les bâtons pour éviter de se casser la gueule, quoi. Donc, ouais, ça a été un petit peu compliqué. À un moment, je suis tombée. En plus, il y avait le sentier, c'est des pierres, enfin, soit c'est de la boue, soit c'est des pierres un petit peu aménagées. Et il y a parfois des pierres qui ont des trous, mais on le voit pas parce que là, ça ruisselait de flotte, donc c'était couvert de flotte. Et je me suis cassé une paire de fois la gueule sur ces pierres qui étaient trouées, en fait. Donc heureusement, j'ai les chevilles un peu hyperlaxes, donc je me suis tordu la cheville, mais ça m'a pas fait grand-chose, mais ça aurait pu être game over au bout de 20 km.
Le poignet a morflé par contre.
Ouais, le poignet a morflé, ouais. Alors je ne sais toujours pas comment j'ai réussi à me faire ça. Je pense que je suis tombée et que ça m'a causé un hématome et qu'après mon poignet a gonflé. Et le problème, c'est que là on le voit, j'ai quelques bracelets sur le poignet. Là, j'en ai plus que 3, mais d'habitude j'en ai une petite dizaine. Et je pense que donc du coup moi mon poignet a gonflé et avec les bracelets ça a fait compression et du coup ça m'a fait très 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 mal. Donc du coup j'ai été en catastrophe, j'ai dû sortir mon canif et puis mon cutter et essayer de couper les bracelets un par un. Donc ça m'a pris déjà 5 minutes vu que j'avais les mains gelées, etc. Et puis en fait après j'ai eu mal pendant toute la course et j'étais voir le médecin à la fin de la course, il m'a juste dit que j'avais une tendinite du poignet, quoi. Donc, je ne sais pas comment je me suis fait ça. Je sais que ça fait un mal de chien et qu'après, j'ai pas mal dégusté, quoi. Mais ouais, ça commençait bien. Puis à un moment, j'ai eu le malheur de mettre le pied un peu hors sentier et je me suis enfoncée jusqu'à la hanche dans la boue, quoi. Donc j'ai galéré à me décoincer sans laisser ma chaussure dans la boue. Mais ouais, je m'attendais à ce que ça soit boueux, que ça soit venteux et qu'il pleuve, mais je m'attendais pas à ça, quoi. C'était une éponge, quoi, une rivière de boue. Ouais, j'avoue que la première journée, bon, après, il y a deux possibilités. Soit tu râles et ta course se passe mal, soit tu prends ça à la déconnade, tu t'enfonces jusqu'au genou dans la boue, tu trouves ça rigolo. Moi, j'ai choisi cette option-là parce que de toute manière, l'autre option, j'allais passer une course horrible, quoi. Mais ouais, pendant toute la course, j'étais en train de me dire, mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est quoi ce terrain, quoi?
Heureusement, il y a des bénévoles qui sont là pour te remonter le moral et puis des petits chocolats chauds aux bases vie qui sont bons pour le moral. Tu es à la première base vie, donc tu es bien puisque tu n'es pas très loin de la première femme. Tu arrives peut-être un peu plus près que ce que tu imaginais, peut-être.
Ouais, tout à fait.
Et ensuite, il y a une première nuit qui se passe dans des conditions relativement difficiles. Il y a un peu d'escalade, etc. Enfin, tu t'en sors plutôt bien, mais c'est un exercice qui reste délicat malgré tout.
Ouais, je m'attendais à ce que le chemin soit difficile, mais à un moment, il faut carrément escalader des pierres complètement mouillées, etc. Je me suis demandé, mais c'est vraiment là qu'il faut passer, c'est juste pas possible, c'est une falaise, je glisse, je tombe, je meurs, quoi. Mais si, le chemin, c'était vraiment ça, quoi. Pourtant, j'ai peut-être perdu un quart d'heure à essayer de trouver où est-ce qu'il fallait passer, mais non, c'était là, c'était ça.
Tu arrives au petit matin au kilomètre 135. Il y a ensuite un beau petit morceau qui s'offre à toi, un sacré morceau de bravoure et dans des conditions qui ne sont pas géniales. Juste pour peut-être repréciser l'altitude, enfin des monts, etc., sur lesquels tu grimpes n'est pas très élevé, puisqu'on est plutôt en dessous de 1000 mètres, mais les conditions sont pour autant moins dantesques.
Ouais, tout est exposé au vent, en fait. Il y a pas d'arbres, il y a pas de forêt. Et puis en plus là, comme il avait neigé, tout était couvert de neige. Et le fameux mont en question, en plus, il fallait carrément faire de l'escalade, quoi. Enfin, c'était 15 minutes d'escalade. Donc moi, quand je l'ai fait de jour, et heureusement, parce que je voyais à peu près où j'allais, et finalement, il faisait pas si froid que ça. Enfin, le vent gelait bien, mais j'imagine que si tu fais ça de nuit avec un vent encore plus horrible que ce que j'ai eu, voilà, quoi, c'est un peu galère.
On était quand même sur des températures qui étaient négatives, qui allaient lorgner un peu avec le moins 15, quand même, peut-être même moins 19 par moment, au ressenti en tout cas.
Ouais, tout à fait. J'avoue que j'ai compris pourquoi ils nous demandaient d'avoir des lunettes dans le matos obligatoire, parce qu'effectivement, quand t'as un vent pas possible et une tempête de neige, ouais, tu vois pas grand-chose et si t'as pas des lunettes, c'est compliqué, quoi.
Tu vis une bonne partie de la course seule, hormis au début, notamment les 75 premiers kilomètres où il t'arrivait de croiser un peu des coureurs et puis quelques portions plus ponctuelles après. C'est une situation qui te va bien, j'imagine que oui, mais est-ce qu'il y a des moments où tu souffres pas un peu de longs tronçons et de longues heures sans croiser personne, ni coureur, ni bénévole sur les bases vie? Ça t'arrive à te satisfaire de ça?
En fait, sur le début de course, on a, voilà, comme j'ai dit, il y a quand même souvent des ravitaux un peu inofficiels. Donc c'est vrai que finalement, on est souvent 30 km, puis on voit quelqu'un. Et puis quand on arrive à une base vie, là, on est comme un roi, quoi. Puis les gens t'aident, t'offrent toute la solitude que t'as eue pendant une vingtaine d'heures. Finalement, tu l'oublies tout de suite dès que t'arrives à une base vie, parce que les gens sont juste là à vouloir t'aider aux petits oignons, à te demander comment tu vas, à t'offrir des choses, à te demander si tu veux un café, des lasagnes, des machins, des trucs. C'est vrai que finalement, ouais, il y a certains moments, surtout la nuit. Et malheureusement, au mois de janvier, il y a 8 heures de jour et 16 heures de nuit. Donc forcément, les nuits sont très très longues. C'est vrai que la nuit, c'est quand même dur quand tu es tout seul. Mais finalement, quand tu arrives aux bases de vie, ou à tous les ravitaux inofficiels qui va, par exemple, parfois, tu traverses un hameau, tu as une femme qui t'invite dans sa maison à manger des toasts ou quoi que ce soit. Enfin, tous les gens sont. C'est un peu comme à La Réunion, en fait. C'est vraiment la course. Enfin, les gens sont tellement impliqués par la course, sont tellement. Et en plus, sont tellement admiratifs de tous ces gens qui font cette connerie, à vrai dire, que finalement, les gens sont vraiment bienveillants et ils sont tous à t'encourager, à te soutenir, parce qu'ils savent que c'est hyper dur, quoi. Et donc, tu traverses, par exemple, à un moment, le Pennine Way traverse une ferme et il y a une femme qui est là et qui attend tous les coureurs et qui les invite un à un à venir boire de la soupe, manger des choses dans sa grange. Et c'est juste incroyable, quoi. Tu te nourris de la bienveillance et du soutien des autres. Donc, oui, t'es seule sur beaucoup de portions. J'avoue que j'ai été vraiment très, très seule sur énormément de portions. Mais je me suis jamais sentie aussi soutenue et aussi encouragée, et j'ai eu l'impression de voir énormément de monde, quoi, sur ces 430 km.
Tu es arrivé au CP situé au kilomètre 75. Là, tu connais une petite alerte à ce moment-là, au moment de te poser sur une chaise. Il y a un coup de moins bien.
Non, c'est juste que ça a totalement changé mes plans. Je voulais pas m'arrêter. Je voulais juste manger, changer ce que j'avais à changer et puis partir tout de suite. Et c'est vrai que là, j'ai senti que je commençais à faire un malaise, donc c'était pas cool. Mais du coup, c'est bien, parce que ça m'a finalement forcé à m'arrêter, je pense, au bon moment. Parce qu'une fois que j'ai fait ma petite sieste, je suis partie bien. Et puis heureusement, parce que il y avait vraiment un gros morceau après, il y avait vraiment 100 km après. Donc c'était finalement le bon moment pour faire une petite pause. Donc finalement, c'est les circonstances de course qui font que finalement. Ça m'a empêché de faire une connerie, puisque je pense que c'était vraiment une connerie de repartir pour 20 heures sans faire une pause. Ça m'a pas inquiété plus que ça. J'ai l'habitude d'avoir des petits coups de moins bien. C'est normal sur une course aussi longue. Surtout quand on est dans des températures négatives comme ça, c'est quand même vachement exigeant pour le corps.
Sans spoiler, là, cette petite heure que tu t'es accordée de sommeil, c'est quasiment 50% de la durée totale de sommeil que tu as eue sur la course.
C'est ça. C'est ça en plus.
Claire, tu repars ensuite dans une nuit un peu froide, un peu d'hypothermie. Enfin, c'est quand même délicat pour toi dans ces conditions-là nocturnes. Tu arrives finalement au CP3 au petit matin. T'es content de ta nuit malgré ces conditions et après ce petit coup de chaud au CP, finalement, tu te sors assez bien de cette nuit.
Ouais, je trouve que j'ai plutôt bien passé la nuit, effectivement. C'est vrai que les conditions, mais il faisait incroyablement froid. Je pense qu'il faisait moins 15 facile avec le vent. Il devait faire moins 19, quelque chose comme ça. C'est vrai que j'ai eu un petit peu un début d'hypothermie. Donc, le temps de s'arrêter, de sortir sa doudoune. Puis, en plus, moi, je suis un peu une boulette. Donc, j'avais laissé tomber mes gants dans la neige. Après, j'avais les gants trempés, j'avais les mains encore plus gelées qu'au départ. Puis surtout, c'était un peu dur niveau navigation. Et puis, c'était un gros tronçon avec juste, finalement, un mini arrêt au 30e kilomètre. Mais c'était quand même 64 km avec juste un seul point, un seul ravito, on va dire. Enfin, un seul moment où on voyait des gens, en fait. Et il faisait tellement froid qu'en fait, j'avais les pieds qui avaient gelé. Enfin, j'avais de l'eau. Enfin, puisque la première nuit, mes lacets avaient gelé. Bon, ça allait, c'était juste les lacets, mais là, j'avais carrément une boule de glace, enfin, deux boules de glace, enfin, mes pieds, c'était deux boules de glace, quoi, en fait.
J'essayais de les deux boules de glace?
Ouais, j'essayais de taper avec mes bâtons dessus pour les enlever, mais ça voulait pas. Donc, c'est pour dire à quel point il faisait froid, en fait. Donc, j'étais très, très contente de passer cette nuit-là. Je crois que ça a été la nuit la plus dure, en fait, parce qu'on était vraiment en altitude, en plus. Enfin, il y avait plusieurs collines à passer. Et, ouais, et puis c'était après bah sur toutes les autres bases vie, je me suis rajouté une doudoune facile, j'avais compris qu'il fallait mieux avoir plus de choses sur soi que enfin qu'il valait mieux prévoir large quoi niveau froid. Mais j'ai l'impression d'avoir pas mal avancé parce que ma mérenne, donc le recordman de Backyard et puis d'autres Eon
600
notamment
600 km.
C'est ça. Donc voilà, quand tu sais que tu as passé une bonne nuit et qu'il ne t'a pas rattrapé, tu te dis ouais, j'ai quand même dû bien avancer parce que d'habitude je le voyais aux bases de vie et puis là quand je suis arrivée à Middleton, en fait il arrivait quand je repartais, donc c'est que j'avais vraiment, en plus de ne pas m'avoir rattrapé, j'avais même un peu creusé l'écart. Quoi.
Donc il y a cette nuit qui était finalement plutôt concluante, qui s'est bien passée pour toi et ensuite une journée. Très belle, c'était peut-être un premier très beau souvenir en tout cas où tu as pu profiter du décor dans des conditions plutôt idéales.
Ouais, bah j'étais vraiment très contente de faire cette portion-là de jour parce qu'en fait, il y a d'abord une énorme cascade, un truc magnifique. Donc, bon, faut escalader des pierres gelées pour passer au-dessus, mais c'était vraiment superbe. Après, une deuxième cascade et après ce qu'on appelle Hike Up Nick, qui est juste un espèce de chasme où on a une vue imprenable sur toute la vallée. Enfin, c'était incroyable. J'étais vraiment très contente de faire 7 jours. Et après, j'ai
après,
aussi...
t'es baigné dans la cascade.
Non. et après, il y avait la partie la plus difficile de toute la course qui s'appelle Crossfell, qui est juste une montée. Je crois qu'on se prend 900 mètres sur 10 km et c'est des conditions épouvantables. C'est le point le plus, enfin c'est là où il a fait le plus froid de toute la course. D'ailleurs, une super photo de moi avec les cheveux complètement gelés et tu vois toutes les photos des gens, ils sont complètement recouverts de givre, etc. Et effectivement, tu te prends une tempête de neige pendant 10 km.
On t'avait prévenu d'ailleurs, les bénévoles t'avaient signalé que c'était une partie particulièrement
On m'avait dit qu'il fallait prendre 3 doudounes et effectivement, j'ai mis mes 3 doudounes sur moi et mes lunettes. Donc voilà, une fois que cette partie-là a été faite, il y a une super belle descente qui t'amène jusqu'au CP4 où là, c'est mythique parce qu'en fait, c'est là où t'as les lasagnes. Ils ont même une page Facebook, enfin une page Instagram dédiée aux lasagnes d'Alston. Donc c'était vraiment mythique. Donc je suis arrivée là et j'en ai pris 5 parts parce que c'était bien ce qu'il fallait pour se remettre de Crossfell, quoi.
Et un petit dodo aussi, 1h30.
Et un petit dodo d'une heure. C'était.
Et ensuite, 60 km qui ont été assez marquants pour toi, qui se décomposent plus ou moins en deux grandes tendances, plutôt les 30 premiers kilomètres dans un marais.
C'est ça. Et heureusement qu'il était à peu près gelé, comme ça on n'avait qu'une fois sur deux de l'eau jusqu'au, enfin de la boue jusqu'au genou, mais ouais, c'était un marais, c'était un beau marais pendant 30 km quand même.
Et ensuite, le mur d'Adrien dont je parlais tout à l'heure dans la présentation de la course qui est construit à même la falaise. Dont tu n'as pas pu pleinement profiter. Enfin, tu l'as vu deux jours ou tu l'as
vu? Je l'ai vu deux jours. J'ai eu aussi la chance de voir 7 jours et ouais, honnêtement, c'est incroyable. C'est incroyable.
On avance dans le temps. Maintenant, c'est le CP5 qui s'offre à toi. On est à 67 km de l'arrivée. Une petite pause s'impose là encore. Est-ce que tu peux nous parler des 25 km qui ont suivi ce CP5?
Oui, alors. Moi, je suis repartie du CP5 assez en forme et puis un peu motivée parce qu'en fait, j'avais vu le troisième et le quatrième qui venaient juste. Enfin, quand je suis arrivée au CP5, ils venaient juste de partir. Donc, je me suis dit, oh, peut-être qu'il y a une toute petite chance que je les rattrape. Donc, du coup, je courais tranquillou. Puis, à un moment, j'ai pas fait gaffe. Il y avait une espèce de flaque et en fait, c'était pas une flaque, c'était un trou de boue. Donc, je me suis enfoncée. Je me suis enfoncée quasiment jusqu'aux hanches dans la boue. Ça m'a un peu surpris. Et bon, le temps que je me dégage et tout, puis que je dise, parce qu'il y avait aussi des gens du challenger de la course plus petite qui arrivaient, je leur ai dit, surtout passez pas là, vous allez mourir sinon.
Ne faites pas comme moi.
Ne faites pas comme moi, voilà. Et donc, ça m'a rappelé quand même qu'il fallait être vigilant au niveau du terrain. Donc après, à chaque fois qu'il y avait des plaques de verglas, puis à chaque fois qu'il y avait des plaques de, enfin, des endroits où c'était un peu dégelé, je faisais vraiment attention. Et après, je voulais suivre la trace, puis parfois elle partait un peu dans des endroits un peu improbables et tout, mais le problème c'est qu'ils nous avaient vraiment dit qu'il fallait pas couper. Donc j'ai suivi la trace, je me disais mais c'est pas possible, je fais du 1 km heure, c'est pas un sentier. Je suis revenue sur la route, puis je me suis dit non, c'est pas possible, si jamais ils me mettaient une pénalité parce que j'ai pas suivi la trace. Mais bref, je suis retournée sur la trace, c'était juste pas possible, c'était pas un sentier. Et ça m'a bien fait perdre une vingtaine de minutes, puis après je me suis rendu compte que ouais, c'était parce que la trace elle était faussée. Donc les 25, voilà, il y a donc du CP5 jusqu'à Bernès, qui est le dernier point où tu vois des gens, en fait, il y a 25 km. À Birnes, tu as le droit de rester 30 minutes, on te sert un repas chaud et puis tu as le droit de rester 30 minutes au chaud. Puis après, tu as le dernier marathon dans les Cheviots, qui est le massif montagneux, là, qui était couvert de neige. Il y avait 3 mètres de neige dans ce bazar. Donc j'ai fait une petite sieste sur le canapé et puis après, c'était parti pour les 40 derniers kilomètres, qui étaient finalement vachement longs parce que quand il y a plein de neige, tu n'avances pas très vite en fait. Je crois que j'ai mis 15 heures pour faire ce truc. Et c'était un peu galère parce que j'ai fait ça de nuit toute seule et que finalement il n'y a pas grand-chose quoi. Après t'as 40 km avec deux huttes, t'as 16 km une première hutte qui est en fait trois planches en bois où tu peux te mettre à l'intérieur pour t'abriter, mais c'est à peu près tout ce que tu peux faire dans la hutte. Et après tu es encore plus en altitude pour atteindre la hutte numéro 2 et avec encore plus de neige. Et puis pareil, la hutte numéro 2, y a rien quoi. Donc ouais, après les 42 derniers kilomètres, ils sont longs. Et je les ai fait de nuit et toute seule. Et la navigation était compliquée parce que parfois tu suivais les traces de pas. Heureusement, il y avait 2 mètres de neige, mais il y avait déjà des gens qui avaient fait la trace. Mais parfois, les gens, ils s'étaient plantés. Donc tu suis les pas, puis tu te rends compte que ah bah non, en fait, c'est pas là. Et tu vois les traces de pas qui partent sur la gauche pour retrouver la trace. Tu fais oh putain, mince, c'est raté. Et hop, 200 mètres de plus. Et puis surtout, c'était un peu la fin de course et j'étais un peu en mode zombie. Donc là, tu te dis, ouais, j'ai pas envie d'avoir à sortir mon sac de couchage et de dormir là, quoi. Parce qu'il y avait juste rien. J'ai juste moins 10 et puis 2 mètres de neige, quoi.
Tu as ensuite une dernière descente sur les 11 derniers kilomètres, en tout cas, qui est une partie peut-être un peu moins technique. Dans ton esprit, tu touches au but et tu franchis donc la ligne d'arrivée après 431 km et 11 000 mètres de D+, en un peu plus de 97 heures d'effort, à une fabuleuse cinquième place au scratch et puis une première place féminine. Après tant d'efforts, tant d'engagement, des conditions aussi difficiles, est-ce qu'il y a de la place pour de l'émotion ou est-ce que justement elle est amplifiée par cette fatigue? Est-ce qu'il y a juste une grosse envie d'aller se mettre au chaud, d'aller dormir ou d'aller retourner chercher des lasagnes pour pouvoir en reprendre et se redélecter? Comment est-ce que tu vis ça?
J'avoue que j'ai pas eu beaucoup d'émotions avant de voir l'arche d'arrivée et avant de voir quelques personnes en fait. Parce que c'est vrai que même jusqu'à 300 mètres de l'arrivée, je voyais personne parce qu'on arrive sur vraiment un tout petit village et puis on arrive encore sur un sentier qui est rempli de neige. Mais c'est vrai que quand j'ai vu les gens là qui m'encourageaient et tout et que j'ai touché ce mur et j'ai embrassé ce mur, je savais pas s'il fallait le toucher ou l'embrasser, donc j'ai fait les deux. C'est vrai que là, je me suis dit ah ouais, quand même, je l'ai fait quoi. J'ai vraiment fait ce truc et puis j'étais même limite déçue quoi de me dire que c'était déjà fini. Non, je déconne, je déconne. J'étais vraiment très très contente de pouvoir aller me mettre au chaud et puis de faire un somme quoi.
Est-ce que sur une course comme celle-là, il y a des moments, est-ce qu'il y en a un peu, pas du tout, ou tout le temps, des moments où tu dis qu'est-ce que je fais là, pourquoi je me suis embarqué dans cette histoire? Est-ce que c'est des sentiments par lesquels t'es prise ou c'est pas du tout un état d'esprit dans lequel tu es, mais au pic de difficulté, et tu t'arrives à être imperméable à ça sans mauvais jeu de mots?
Non, voilà. En fait, j'ai vraiment eu de la chance que les conditions météo, parce que bon, c'était dur, hein, c'était vraiment très très dur. Le terrain était très dur, il faisait très très froid, ça gelait, mais c'était sec. Et moi, finalement, ce que je supporte pas, c'est être mouillé. Le froid, tu te rajoutes une doudoune, tu rajoutes des gants, tu te mets un bonnet, etc. Enfin, ça c'est quelque chose que je pense pouvoir gérer. Par contre, je ne sais pas ce que ça aurait été dans des conditions beaucoup plus humides que ça. Donc c'est vrai que finalement, oui, il y a beaucoup de moments où je me demandais, mais qu'est-ce que je fais là? Mais j'ai toujours eu le côté positif des choses en me disant, waouh, ouais, c'est une aventure, c'est fou, c'est dingue, les gens ils vont jamais me croire quand je vais raconter ça. Enfin, j'ai toujours la vision positive de la chose, ce qui n'aurait pas forcément été le cas s'il avait plu pendant 5 jours, enfin pendant ces 4 jours. Et finalement, j'ai jamais eu de coup vraiment de moins bien. Enfin, j'ai toujours été bien. Enfin, j'ai toujours eu le sentiment d'avancer, de continuer à courir. Enfin, jusqu'au kilomètre 80, je courais. Enfin, je courais. Je trottinais à 6 km/h. On va appeler ça courir, on va dire. Mais tu vois, ça a toujours avancé. J'ai toujours eu l'impression de continuer à avancer à mon rythme et de me faire plaisir. Donc, c'est vrai que finalement, la course, elle a pas été aussi dure que ce que je pensais, en fait. Mais c'est aussi parce que les conditions étaient incroyables au niveau météo et aussi parce que physiquement, j'étais très, très, très en forme et que j'ai finalement pas souffert, quoi.
Est-ce qu'il y a malgré tout une chose qui a pu te surprendre sur cette course ou un apprentissage avec lequel tu serais sorti de cette spine?
Ouais, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi boueux et qu'on ait vraiment les pieds mouillés en permanence, enfin mouillés ou dans de la neige en permanence. Je m'attendais à ce que ça soit difficile, mais à ce point, qu'on court parfois dans des rivières, quoi. Je m'attendais pas forcément à ça. Donc c'est vrai que je m'étais préparée, j'avais trois paires de chaussettes sur moi, dont deux paires imperméables, et c'était pas trop, hein. C'était pas trop du tout.
T'as pas eu d'ampoule?
J'ai pas eu d'ampoule, non, 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 c'était incroyable. Et j'ai eu des pieds nickel. Je m'attendais justement à avoir des pieds complètement défoncés, mais en fait, après, c'est aussi parce que c'est le point numéro un. C'est vraiment la chose à laquelle j'ai fait le plus attention. À chaque CP, je changeais mes chaussettes. J'ai gardé les mêmes chaussures du début à la fin, mais c'était plus parce que je voulais pas changer un truc qui marchait. Mais ouais, je m'attendais pas à ce que le terrain soit aussi difficile, qu'on ait de la boue parfois jusqu'aux genoux, ou que là, en l'occurrence, on avait des plaques de verglas vu qu'il faisait moins 15. Et j'avoue que j'étais un peu débile, j'ai pas voulu mettre mes crampons. Enfin, je les ai mis pour la première fois à 40 km de l'arrivée. J'aurais dû les mettre plus tôt parce que je me suis tapé une paire de gamelles, mais elles étaient méritées pour le coup. Hein. Pas de crampons, bah, de la glace, tu tombes, hein, c'est
pas
normal.
Pas de crampons,
hein.
Sanction, tu connais cet adage.
Ouais, voilà, pas de crampons, sanction. Mais ouais, je m'attendais pas à ce que le terrain soit aussi difficile que ça. J'avoue que, en plus, quand on voit. J'avoue que 430, ça fait peur, mais après, tu vois le D+, tu vois 11 000 D+, tu dis, ouais, c'est bon, c'est roulant. Ouais, non, c'est pas roulant. C'est pas roulant. Il y a des parties, tu peux pas aller plus vite que 4 à l'heure. Hein.
Ça a été ta course la plus exigeante? C'est dur à dire ça, la course la plus exigeante à ce jour?
Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, de loin, de loin. Le tort, ça avait été exigeant, mais il n'y a aucun moment. Enfin, le tort, tu veux faire une sieste, tu t'assois dans les buissons, tu dors, quoi. Là, sur la spine, c'est juste pas possible, quoi. Enfin. T'as tout ce qu'il faut en théorie pour pouvoir dormir dehors, mais moi j'avais pas du tout envie de dormir dehors. Hein. Tu mets ton bivy, tu te dors une heure, tu te réveilles, tes chaussures elles sont gelées. Super quoi. Et puis, non, j'avais vraiment envie de passer le moins de temps possible dehors. Et c'est vrai que du coup ça t'enlève toute possibilité de faire une sieste ou de faire une pause. Parce que, par exemple, je pouvais juste pas me dire, allez, je m'assois quelque part 5 minutes pour souffler. Tu fais ça, tu crèves de froid quoi. T'étais obligé de marcher sans arrêt si tu voulais pas geler quoi. Donc ça fout une pression quand même. Tu dis j'espère que je vais pas avoir de défaillance quoi.
En admettant que tu prennes la décision folle de retourner sur la spine un jour, qu'est-ce que tu ferais de différent?
J'essaierais de mieux m'organiser au checkpoint. C'est vrai que finalement parfois je passais une heure ou une heure et demie et sans faire de choses vraiment utiles. Les choses utiles étant dormir ou manger, mais parfois j'avais trop chargé mon sac déjà, donc je passais, en plus avec mon poignet qui était en vrac, j'arrivais juste pas à fermer mon sac, donc je passais 10 minutes à essayer de fermer mon sac. Et c'est vrai que je pense que je peux gagner facile 5 heures si j'arrive, que je me dis je fais ça, 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 et si je dors et machin. C'est vrai que là parfois je restais une heure au checkpoint, bah, j'aurais mieux fait de dormir 45 minutes et de faire 15 minutes un autre truc plutôt que de rester une heure à regarder dans le vide, quoi. Enfin, ou à pas faire grand chose, quoi.
Merci beaucoup Claire d'avoir partagé avec nous cette course incroyable. On va se parler un petit peu de la suite. Tu nous l'as dit tout à l'heure, il y a les championnats du monde des 24 heures qui se dessinent cette année. Il y a aussi la Hard Rock qui est un rendez-vous sur lequel tu as envie de répondre présente. Est-ce que tu peux nous parler voilà, de... C'est ça, c'est tes deux gros objectifs de l'année, c'est cela?
Ouais, c'est ça, et l'UTMB aussi. Mais ouais, j'avoue que la Hard Rock, je m'y attendais pas. Donc, quand j'ai vu que j'étais tiré au sort, déjà, j'y ai pas cru au départ. Puis après, il a fallu tout organiser. Et ouais, ça va être un bel objectif. Et puis après, je vais en profiter pour rester un peu dans le Colorado, peut-être me faire un petit FKT ou juste randonner pendant 10 jours. Mais ouais, ça va être une sacrée aventure, ça aussi, parce que là, on touche aussi à quelque chose que je connais pas du tout, c'est-à-dire être en altitude pendant toute la course, quoi. Parce que là, je crois qu'on est à 3500 de moyenne, quelque chose comme ça, et qu'on redescend jamais en dessous de 2008. Donc, c'est quelque chose que je connais pas du tout. Et oui, il y a plein d'autres courses. Là, trop de courses. ça va pas arrêter. Enfin, c'est comme d'hab, quoi. Ça va être comme d'hab.
Claire, tu avais partagé avec nous ton motto lors de notre 30e épisode qui était plus c'est long, plus c'est bon. Alors, est-ce qu'il est toujours de circonstance après une course de 430 km ou est-ce que tu as un autre motto que tu voudrais partager avec nous aujourd'hui?
Ouais, non, plus c'est long, plus c'est bon. C'est toujours
plus
valable.
Plus c'est très long, plus c'est très bon ou pas?
Oui, plus c'est long, plus c'est bon. Non, bah, notre motto, ça pourrait être oser à un moment. Il faut oser, même si c'est sortir de notre zone de confort, même pour faire des choses même qui, a priori, ne nous correspondraient pas du tout, parce qu'on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer, la preuve. Hein. Et non, puis même, on n'a qu'une seule vie, donc il ne faut pas avoir de regrets. Il faut oser des choses.
Merci beaucoup, Claire. C'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre avec toi cette Spine Race, qui est une course totalement hors norme. Chacun aura pu le mesurer pleinement. Elle rime assez bien avec épique. Je pense que le terme course et épique, ça colle assez bien dans le cadre de cette spine que tu as partagée aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir été fidèle à toi-même, aussi enthousiaste et spontanée. Ne change rien. Ton énergie, elle est hyper communicative. Et puis, ton incroyable détermination, c'est, je pense, pour beaucoup, et moi le premier, une très, très grande source d'inspiration. Donc, avance comme ça, continue. Tu n'as pas besoin de moi pour te le dire, mais en tout cas, voilà, sache que tu suscites beaucoup, beaucoup d'inspiration. Enfin, tu crées de l'inspiration, en tout cas, auprès de beaucoup de gens qui te suivent. Et voilà, merci et bravo encore pour cette belle performance. Je te souhaite une très belle année 2023. Il y a un beau programme, on l'aura compris. Je suis sûr que tu vas nous mitonner des belles performances dont tu as le secret. Je te souhaite un jour qu'on puisse te voir sur la Barclay, où là aussi, on sera tous derrière nos écrans avec des fumigènes et puis des trompettes et des tambours pour t'encourager. Je suis sûr qu'à distance, tu sentiras qu'on est avec toi. En tout cas, voilà, merci d'avoir pris le temps de nous raconter cette grande, grande et belle course qu'est la Spine.
Bah, merci à toi de me revoir réinvité. Puis j'espère qu'on pourra parler de la Barclay après, un jour, peut-être.
Exactement, ta place est réservée. Dès que tu as fait ta Barclay, je te re-re-invite avec un re-re-plaisir fou.
Ça marche.
Salut Claire. À bientôt, merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique. Évidemment.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.